Dans ce lieu magnifique de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, se tiendront cet après-midi, tour à tour, une conférence suivie d'une table ronde. Pour présenter la conférencière de cette année, je cède la parole à Mme Houda Pepin.
Alors, chers collègues députés, Madame la députée de Taschereau et Monsieur le député de Charlebourg, Mesdames et Messieurs les conférenciers et conférencières, Monsieur Sauvageau, chers amis, bonjour. Je suis extrêmement heureuse de vous présenter notre conférencière principale. En fait, on a tout fait pour la voir parce que elle vous le dira elle-même, elle ne veut plus entreprendre de conférences de tout genre, comme elle dit, parce qu'elle veut se concentrer sur l'essentiel. Mais le sujet qu'on va discuter avec vous, c'est aussi essentiel. Alors, c'est un privilège pour moi de vous présenter Madame Lise Bissonnette. En cette année de centenaire du quotidien Le Devoir, où Madame Lise Bissonnette a occupé tour à tour les postes de correspondante parlementaire dans les capitales québécoises et canadiennes, le poste d'éditorialiste, de rédactrice en chef et de directrice générale, elle vous témoignera de l'évolution des rapports entre les médias et les instances politiques au cours de la période particulièrement effervescente de 1974 à 1998, période durant laquelle elle se trouvait en première ligne. Apte à passer concrètement en revue les petites et parfois grandes mutations qui ont modifié le métier, de ses exigences les plus prosaïques jusqu'à ses angoisses éthiques, elle s'autorisera aussi à dévoiler au cours de sa conférence quelques-unes des observations qu'elle a gardées en réserve durant son passage à la présidence d'un organisme public de 1998 à 2009. Madame Lise Bissonnette se consacre aujourd'hui à des travaux personnels d'écriture et de recherche, après avoir mené une carrière de gestionnaire de haut niveau à la tête de grandes institutions québécoises. En juin 2009, au terme de 3 mandats, elle a quitté la présidence et direction générale de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, devenue sous sa gouverne la plus importante institution culturelle du Québec, tant par sa taille que par la diversité de ses missions. De 1990 à 1998, Madame Bissonnette a été directrice et éditrice du quotidien Le Devoir, où elle avait fait ses débuts comme journaliste en 1974. Écrivaine, elle est l'auteur de 8 ouvrages, 3 essais, 4 œuvres de fiction et un livre alliant ces deux genres littéraires. Sa contribution au débat d'idées et son engagement au sein de la communauté lui ont valu de nombreuses distinctions, dont 8 doctorats honoris causa, décernés par des universités du Québec, du Canada et des États-Unis. Madame Bissonnette a également reçu la médaille de carrière de l'Académie des lettres du Québec en 1999 et le prix de carrière de la Fondation pour le journalisme canadien en 2010. Mesdames et messieurs, joignez-vous à moi pour accueillir chaleureusement Madame Lise Bissonnette.
Merci beaucoup, Madame la Première Vice-Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Directeur de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale. Pour ceux qui ne le savent pas, vous savez que Monsieur Sauvageau est bibliothécaire, mais vous ne savez pas que Madame Fatima Houda Pepin est bibliothécaire. Je suis donc très heureuse d'être accueillie par ces deux bibliothécaires aujourd'hui, moi qui ai tant aimé ce milieu et qui l'aime encore, et je suis ravie d'être dans cette salle. Je salue les élus qui sont parmi nous et je vous salue tous, chers amis. Quand M. Sauvageau m'a demandé quel titre je donnerais à ma conférence, j'ai dit en première ligne, comme ça, c'était une façon assez facile de trouver un titre à l'avance. Je lui ai dit que je ne ferais pas de texte, j'en ai fait un. Voilà. Et finalement, j'ai changé le titre en l'écrivant il y a quelques jours. Je me disais, j'aurais dû, mais c'était un peu une blague et ça ne se faisait pas ici, à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale. Je disais, ma conférence pourrait aussi s'intituler « Intervention d'une has-been ». Et vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi je le dis. D'une part, c'est bien ce dont il s'agit. Ma carrière de journaliste entreprise en 1974 s'est terminée au début d'août 1998. Il y a donc près d'une douzaine d'années maintenant que je ne pratique plus, et 12 ans, c'est une éternité pour les médias comme pour la politique. D'autre part, il est absolument vrai que je réagis très souvent en « ancienne », entre guillemets, quand je continue à consommer, et je le fais massivement, les médias et la politique. Et je n'ai pas tendance à m'excuser d'avoir de l'âge et de l'expérience. Enfin, parce que cette expression « has been », j'aime pas utiliser l'expression anglaise ici, mais quand même, me sert d'anecdote intéressante pour amorcer mon propos de ce jour. J'ai signé un tout dernier texte dans un média dans Le Monde du 20 octobre dernier. C'est donc assez récent. J'y prenais part au débat sur les intentions de la Bibliothèque nationale de France, qui était annoncée, mais fortement contestée. Vous vous souviendrez, ceux d'entre vous qui suivent ce débat, que la BNF voulait conclure un partenariat avec la multinationale Google pour la numérisation de ses ouvrages patrimoniaux. L'ancien président de la BNF, que j'ai bien connu et avec lequel j'ai beaucoup travaillé, l'historien fort connu aussi, Jean-Noël Jeannenet, avait publié il y a quelques années un livre percutant sur cette question. Certains l'ont lu certainement. Cela s'appelle « Quand Google défie l'Europe ». Ça a connu une quinzaine d'éditions et ça vient d'être réédité. Il avait publié ce livre quand il était encore en poste et il venait de s'élever publiquement, donc à l'automne dernier, contre les intentions de son successeur. C'était costaud comme bataille, donc lui entretenait, écoutait les sirènes de Google, et la polémique prenait des allures un peu franco-françaises que j'estimais, pour ma part, un peu limitées. J'ai donc proposé au Monde un texte qui soutenait la position de M. Jeannenet en attirant l'attention sur des impacts internationaux importants, comme notamment auprès des autres bibliothèques nationales de la planète, il y en a une centaine, ainsi bien sûr qu'en francophonie. Je vous fais grâce de ce débat, je ne suis pas là pour vous en parler aujourd'hui. Mais comme c'est normal maintenant, Le Monde a publié après mon texte les commentaires. Le texte de polémique de M. Jeannenet avait été publié dans Le Figaro, moi j'ai publié dans Le Monde, et dans les deux cas, il y avait donc des commentaires sur le site Internet qui reprenaient nos textes publiés sous forme papier. L'un des plus immédiats des commentaires à mon texte a été aussi le plus lapidaire. Il contenait trois mots suivis de trois points de suspension, et c'était, ouvrez les guillemets, « has been, virgule, lease, trois points de suspension ». Je ne suis pas signée par un anonyme, évidemment, je veux dire, dans ces journaux. Ceux qui connaissent ce genre de commentaires ne seront pas surpris, c'est le style de la chose. Je reviendrai donc plus loin sur cet incident, qui me semble un joli socio-analyseur. J'avais un mentor, le sociologue Georges Lapassade, c'est lui qui avait mis l'UQAM à feu et à sang en 1970, mais que j'ai toujours beaucoup aimé, et lui, il appelait ça de la socio-analyse, c'est-à-dire qu'un socio-analyseur, c'est ce qui vous permet d'éclairer les ressorts intérieurs qui travaillent une institution. Et ce « has been lease » est resté dans mes annales. En m'appuyant donc sur mes souvenirs, mes réminiscences d'ancêtres et de baby-boomers, et aujourd'hui, il y en a beaucoup dans la salle, vous savez que c'est un peu la même chose, être ancêtre et baby-boomer, je me réconforte de retrouver d'ailleurs des contemporains. Je tenterai de cerner avec vous certaines des choses qui ont changé ou qui ont perduré dans le rapport entre les médias et la politique au cours des décennies où j'aurais été en première ligne, comme le disait le titre officiel. Je ne prétends pas d'aucune façon, vous savez, je ne suis pas du tout une scientifique des médias, je ne connais pas la théorie de la communication parfaitement. Je vais aborder ces thèmes de façon assez personnelle, sur le mode du questionnement qui est le mien, des choses qui me préoccupent et qui m'occupent, parce que j'ai toujours beaucoup d'affection et d'intérêt pour les médias. Et j'ai choisi quatre questions, quelqu'un d'autre aurait pu en prendre d'autres, mais qui, me reviennent régulièrement, à titre maintenant d'observatrice un peu éloignée tout de même. Je vais regarder avec vous le statut du journalisme politique dans la cité. Je crois qu'il a changé pas mal. L'effet, c'est inévitable. Il faut parler de l'effet majeur des nouvelles technologies de l'information. Des modifications du terrain où se joue l'analyse politique, le journalisme politique. Et enfin, je ne pouvais m'empêcher de parler un peu du sens critique et de sa transformation et de ses défis aujourd'hui, parce qu'encore là, il me semble que des choses sont en voie de changer. Les journalistes politiques, donc, j'ai intitulé cette partie « Nouvelle star dans la cité ». Je parle des journalistes politiques et non pas des éditorialistes. Je suis devenue correspondante parlementaire en 1975, ici même, à l'Assemblée nationale. C'était, je me souviens plutôt au début de l'année 75, je crois. Ma qualité de fille, entre guillemets, là, j'étais vraiment une fille, était un obstacle majeur. Mon président de syndicat, que le hasard voulait qu'il soit aussi mon beau-frère, m'avait fait savoir que c'était pas fait pour une fille d'être sur la ligne de feu. Et il m'avait dit, tu peux pas, M. Ryan ne voudra jamais, c'est impossible, une fille correspondante politique, tout ça. J'ai demandé et obtenu le poste sans difficulté aucune. Pourquoi? Il était affiché depuis des semaines et personne n'en voulait. C'est ça. Alors, n'eût été de mon compagnon qui, hier comme aujourd'hui, entretient toujours pour moi des ambitions supérieures aux miennes, je n'en aurais pas voulu non plus. Ma vie à Montréal me plaisait beaucoup. J'étais chroniqueur, en fait, je couvrais le domaine de l'éducation. Et ce travail de journaliste spécialisé m'allait comme un gant. Je n'étais pas sitôt arrivée à Québec, en fait, à peine quelques mois plus tard, même moins d'un an, que je déménageais cette fois à nouveau à Ottawa pour remplacer le dit beau-frère. En passant, il est devenu l'ex depuis, mais je l'ai remplacé donc à la correspondance parlementaire à Ottawa, un poste que son départ du journal avait laissé vacant depuis des mois. M. Ryan avait sollicité cette fois ma candidature pour des raisons relativement simples, je parlais anglais. Ces circonstances, à mon avis, tout en étant assez drôles, sont parlantes quand même. Il faut se rappeler donc ce que je viens de dire, j'étais une journaliste à peu près inexpérimentée, et pourtant, je me retrouvais au front, comme disait le beau-frère, dans un journal dont la scène politique était pourtant le pain quotidien. Autre chose, les postes de correspondant politique étaient peu valorisés ou convoités, même si la période politique, il faut s'en souvenir, était effervescente et véritablement, il faut le dire, passionnante. Le Parti québécois était devenu l'opposition officielle en 1973 et s'approchait du pouvoir en 1975. L'Union nationale connaissait des ratés spectaculaires et la carte politique du Québec se modifiait radicalement sous nos yeux. Le quotidien Le Jour avait été fondé en 1974 et faisait la guerre aux devoirs, notamment et surtout sur des questions politiques, bien sûr. Les deux parlements étaient survoltés. Les fronts communs des syndicats du secteur public tenaient le haut du pavé. En fait, toute l'année que j'ai passée ici à Québec, mon collègue Gilles Lesage, qui lui était un correspondant parlementaire chevronné, était là depuis des années, couvrait l'Assemblée nationale pendant que je me promenais dans les hôtels de Québec à couvrir les nuits du Front commun et les grandes négociations qui étaient menées, on s'en souviendra peut-être, par M. Lucien Bouchard à l'époque, qui était négociateur du gouvernement. Tout ça, c'était un bouillon sans cesse. Et l'affrontement, évidemment, entre souverainistes et fédéralistes prenait enfin un tournant très concret sur le terrain, au cœur de l'arène. Personne, faut-il le souligner aujourd'hui, n'aurait pensé se proclamer de quelque façon fatigué de toutes ces questions. Nous ne l'étions pas. On n'aurait pas idée, donc, aujourd'hui, dans un quotidien aussi politisé que Le Devoir, et même ailleurs, d'envoyer au feu une débutante comme celle que j'étais. Pourtant, c'est paradoxalement aujourd'hui où la scène politique est apaisée et, je dirais même, un peu tristounette, que ces postes sont convoités, mis en valeur, prestigieux et réservés, bien sûr, à ceux qui ont longuement fait leurs preuves. Que s'est-il donc passé? La correspondance était un travail de reportage quotidien, souvent assez fastidieux, et elle s'est muée en travail d'analyse qui a désormais délogé l'éditorial de sa préséance. Je suis absolument convaincue de cela. Le journaliste reporter s'est de plus en plus souvent mué en chroniqueur, et il est devenu la vedette dans toutes les disciplines, d'ailleurs pas seulement la politique, dans toutes les disciplines journalistiques, du sport jusqu'à la politique en passant par la culture. Et sa photo et sa mise en page distincte le prouvent. Ce sont des petits détails matériels, mais cela a son importance dans les médias, qui sont un art de la mise en scène aussi. L'arrivée de l'information continue, ça c'est vraiment majeur, et des nombreuses émissions qui ont eu recours quasi quotidiennement aux journalistes politiques a fait de ceux-ci, même ceux qui sont issus de la presse écrite, des vedettes de la radio et surtout de la télévision, dont certaines ont atteint qualité de star et j'ajouterais avec la rémunération additionnelle correspondante. Nous connaissons tous des chroniqueurs qui ont doublé et triplé leur salaire avec la radio et la télévision. Et nous savons aussi l'effet que ça a, les gens qui écrivent, qui sont dans la presse écrite et qui ne sont pas connus, dont la figure n'est pas connue en soi, en fait, vont au supermarché et se font dire « Ah, j'ai toujours suivi ce que vous avez fait ». Personne ne lit ce qu'ils écrivent dans les journaux, mais on les voit à la télévision. Et ça a donc une qualité de star qui n'existait pas, certainement, au moment où j'ai fait mes premières armes. La classe politique a suivi ce mouvement avec une certaine perplexité. L'attention vive et constante qu'elle accordait aux éditorialistes, et je l'ai bien connue parce que j'ai commencé à pratiquer le genre en 1978, donc avant l'arrivée de l'information continue et de tout et ce mélange des médias, cette attention s'est atténuée pour se concentrer sur les noms les plus connus de la chronique, dans la mesure où c'est la chronique maintenant et non l'éditorial qui nourrit la rumeur. Je fais ici une parenthèse, je crois, parce que je continue à les lire, que l'éditorial lui-même a pris souvent les allures de la chronique d'humeur. Et il ne lui manque qu'un rare trait là, qui la distingue encore, c'est l'absence du « je ». Hein? En éditorial, on ne dit pas « je ». C'est une sorte de dernière frontière qui n'empêche cependant personne d'écrire pour s'émouvoir ou s'indigner. Les éditoriaux sont plutôt courts aujourd'hui, plutôt que de prescrire après analyse, comme c'était la règle dans notre temps. Et c'était vraiment une règle importante. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard. Encore une fois, vous trouverez que j'attache l'importance à des détails triviaux, mais je crois que parfois ils sont très socio-analyseurs. Si les éditorialistes tiennent aujourd'hui à apposer leurs photos à leurs textes, une demande que je persistais à refuser alors que je dirigeais le Devoir, parce que je trouvais qu'il y avait encore, même si les éditoriaux étaient signés, il y avait encore là une position institutionnelle. Mais dès que je suis partie, évidemment, les photos ont fait leur apparition. L'idée qu'un média puisse défendre d'ailleurs une position institutionnelle s'est radicalement diluée. Ce sont les positions des analystes individuels qui comptent, d'où l'importance de leur rang dans une sorte de palmarès informel qui étudie bien les cabinets et leurs relationnistes. On s'est beaucoup moqué autrefois du confessionnal que M. Ryan ouvrait aux politiciens jusque tard le soir dans son bureau de la rue Saint-Sacrement. D'ailleurs, une belle photo là où on le voit dans son bureau, dans l'exposition. Et il entretenait les gens. On est ceux d'entre nous qui avons travaillé au Devoir le savent. Quand on travaillait tard le soir, il partait encore plus tard que nous, puis il y avait toujours dans son bureau un ministre, un député, une personne qu'il conseillait. Les longs entretiens avec des chroniqueurs aujourd'hui, qui les obtiennent à volonté d'ailleurs, ces entretiens, de l'aube au couchant, grâce aux numéros confidentiels des portables, ne sont pas si différents après tout. Le journaliste politique est en somme devenu souvent plus important que son patron et que l'institution qui l'emploie. Ce n'est pas un mince revirement. Certains analystes des médias voient là un passage de l'idéal de l'objectivité à celui de la subjectivité qui mènerait à bien des dérives. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt, si vous avez le temps, tous ceux qui sont accros aux ordinateurs, c'est quand même intéressant. Il y a le principal critique des essais dans le New York Times, le New York Review of Books, là, qui est dans le New York Times, le 21 mars dernier, a fait une longue synthèse de tous les livres, les ouvrages, les réflexions qui se publient aujourd'hui sur l'influence des nouveaux médias et les nouvelles façons de pratiquer non seulement le journalisme, mais aussi les métiers de la culture. Et c'est le thème qui rassemble un peu tout le monde, c'est qu'on passe d'une époque où les faits, où l'opinion a remplacé les faits, et on passe de l'objectivité à la subjectivité, et que ça amènerait donc particulièrement dans les médias bien des dérives. Je dirais oui et non. Moi qui lis encore beaucoup et qui écoute beaucoup tout reportage politique dans tous les médias, ce reportage politique me paraît encore dans l'ensemble plutôt conforme aux règles distanciées que dicte le métier. Et là-dessus, je ne crois pas que les choses se soient dégradées. Au contraire. Mais il est certain que nous observons en parallèle un déluge de textes et d'interventions où l'analyse se confond avec l'humeur et la confidence personnelle, le dernier avatar en date étant ce que les anglophones appellent le « emo journalism »,« emotion journalism », qui se déploie à l'occasion de catastrophes, mais qui teinte aussi nos mini-séismes politiques à nous. Alors, on retrouve des anecdotes touchantes sur la vie d'un politicien qui ne va pas bien, des souvenirs d'une jeunesse commune sur les bancs d'école. On tente de psychanalyser en amateur le vocabulaire de l'un ou l'expression non-verbale de l'autre. Tout se passe comme s'il était indispensable de montrer qu'on peut sortir du carcan du reportage factuel pour passer à une autre lecture du monde. Qu'on est capable de pratiquer à la fois une sorte d'équilibre virtuose, objectivité et subjectivité, ce qui rendrait caduques d'ailleurs nos anciens débats sur la possibilité ou non de la neutralité journalistique. C'était une chose qui nous agitait beaucoup quand j'ai fait mes débuts. Pouvait-on être objectif? Non, on ne pouvait pas l'être, mais on devait tendre vers, etc. On a résolu la question en faisant les deux. Et je vais tenter ici une autre parenthèse assez qui est un détail encore une fois, mais qui me semble parlant. Est-ce un hasard si autant de journalistes en vue tiennent à tenter leur chance actuellement sur le marché du roman, plus souvent que sur le marché des essais? Les exemples sont légion depuis un peu plus d'une dizaine d'années. J'en parle d'autant plus à l'aise que j'ai été une des premières à le faire en 1992. Mais c'est quand même remarquable d'observer et de lire ces choses. Mener de front une carrière littéraire et journalistique n'a rien de choquant, surtout quand on croit, comme c'est mon cas, que le journalisme peut en soi être une grande catégorie littéraire d'excellent niveau. Mais l'abondance récente de ces tentatives me semble un signe d'une transformation notable de nos valeurs journalistiques. Cette double personnalité, donc, du journalisme politique peut mener, elle, à bien des dérives, mais aussi, et là, j'aime bien regarder devant, à des avancées intéressantes. Elle a tendance, me semble-t-il, à casser le moule de l'analyse habituelle du discours, à faire intervenir dans l'examen des politiques des facteurs humains qui étaient autrefois tout à fait bannis de l'intervention éditoriale qui, elle, tenait le haut du pavé. Dans la chronique, on peut, par exemple, évoquer des cas précis, percutants, les effets d'une décision ou une orientation sur le sort des individus, au lieu de s'en tenir à des mesures mathématiques mesurables d'une injustice, par exemple. On peut aussi donner droit de cité dans l'évolution de l'opinion à des facteurs qui paraissent irrationnels ou émotifs, mais qui font quand même partie de l'équation. Je me permettrai de me plonger dans un exemple très récent j'y repensais la semaine dernière et j'essayais de comprendre ce qui était en train de se passer et je me suis dit, voilà, ça semble irrationnel, mais ça ne l'est pas. Comment se surprendre, par exemple, que le détonateur de ce qu'on peut bien appeler la détestation du récent budget, vous voyez que je plonge, du récent budget du gouvernement du Québec, il y a une détestation là, qui se répand dans la population, ce soit un malheureux 200 $ qui semble si peu demandé aux citoyens au regard des besoins du système public de santé. Est-ce vraiment l'injustice de l'absence de modulation? Tous les chroniqueurs qui sont penchés sur le sujet sont revenus là-dessus. L'injustice de l'absence de modulation, constat très rationnel, bien sûr, qui a déclenché ce ras-le-bol. Ou plutôt, est-ce le souvenir encore frais de l'indécence des riches qui, dans tout l'Occident, ont plongé le monde, y compris le Québec, dans une crise insensée à cause de leur rapport individuel du gain et qui n'ont pas eu à subir personnellement la conséquence de leurs actes. L'obscénité, parce que c'est de ça qu'il s'agit, s'il s'agit d'une chose obscène, ce qui s'est passé là, est une chose difficile à cerner et à formuler lorsqu'on s'en tient à la stricte analyse factuelle. Mais il me semble à moi que ce qui est en train de se passer au Québec, c'est ça, l'eau a monté, a monté, a monté, et tout à coup, les choses sont en train d'éclater. Ce n'est peut-être pas rationnel, mais il faut arrêter de se répéter que les gens vont finir par comprendre. Actuellement, ils ont quelques bonnes raisons de ne pas vouloir comprendre, et ça n'est pas, et ceci n'est qu'un déclencheur, dans le fond. Donc, il faut pouvoir parler de ces choses-là. La stricte analyse factuelle ne le permet pas. Quand notre métier s'est professionnalisé, je dirais, bon, avec la Révolution tranquille, c'est un marqueur trop facile, mais quand même, ça donne toujours une bonne balise, il a tacitement exclu la dénonciation trop vive. le retour à l'esprit de pamphlet, et il faut se rappeler quand même, surtout en voyant une exposition sur l'histoire du devoir, l'esprit de pamphlet a été une tradition québécoise notable, mais il était devenu, cet esprit de pamphlet, presque interdit des pages sérieuses. Donc, ce retour un peu de l'esprit de pamphlet est une brèche qui redonne du tonus à nos médias. Et là, je mets un caveat absolument majeur, puis malheureusement, je suis pas sûre qu'il peut être suivi. Cet esprit de pamphlet, donc, peut être intéressant, pourvu qu'il ne soit pas pratiqué uniquement par des amuseurs. Et le problème, c'est ça, évidemment, c'est que le plus souvent, il l'est par des amuseurs. J'aimerais bien, pour ma part et sans trop d'espoir, que le conseil de presse comprenne cette chose. Lui qui a désormais plus de passion pour la rectitude politique que pour la liberté d'expression, et ne me demandez pas d'expliquer ici ce que je pense, je voulais le dire. Bon, j'ai un petit compte à régler avec le conseil de presse là-dessus, mais je suis absolument convaincue qu'il faut retrouver cet esprit un peu et admettre que la rectitude politique, tout en étant souhaitable d'une certaine façon, la mesure, la précaution, la prudence, etc., la liberté d'expression est absolument nécessaire à l'équilibre dans une société comme la nôtre et dans nos médias. Voilà pour les stars dans la cité. Je pense vraiment que ce sont donc de nouveaux journalistes politiques qu'on voit apparaître. En tout cas, les conditions d'exercice de leur métier ont changé. Et les conditions matérielles aussi. Deuxième bloc, donc, que j'ai intitulé « De la technique à la technologie ». La plus spectaculaire et concrète des différences est évidemment celle-là, la révolution technologique. Alors, on va revenir un instant, si vous le voulez bien, au moment où je rejoins Gilles Lesage, ici même à Québec, au bureau du Devoir, en 1975. Nous rédigeons nos textes sur des machines à écrire manuelles. Le Devoir n'était pas encore passé aux machines électriques à l'époque. Et nous les expédions par bélinographe. Ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est un bélinographe, c'est un machin où, la feuille roule, c'est l'ancêtre du fax, en fait. Et ça prenait 4 minutes pour transmettre une page. Donc, quand vous aviez à peu près, vous étiez au milieu de votre article, vous mettiez la première page sur le bélinographe et vous continuez à taper votre article, puis vous mettiez la deuxième page, la troisième. J'ai déjà fait comme ça un reportage sur un congrès de l'Union nationale de 16 pages en envoyant mes feuilles en même temps à Montréal. Et à défaut, quand le bélinographe était cassé, nous en donnions la dictée à un pupitreur. Je rappelais à Jean-Claude Leclerc à l'instant comment notre regretté François Barbeau, qui est décédé tout récemment, était extraordinaire. Il mettait le téléphone sur son épaule et nous, on dictait les textes et il tapait plus vite que son ombre. Donc, ça allait aussi vite qu'un bélinographe quand François était au pupitre. C'est à ça que ça ressemblait et c'était très, très, très fréquent qu'on devait dicter nos textes. Nous devions nous rendre à la tribune de la presse, au jubé de l'Assemblée, pour avoir accès à la période de questions. La télédiffusion des débats n'existait pas. Les bleus, ce qu'on appelait les bleus, je ne sais pas quel est le nom réel de ça, les bleus des délibérations, c'est-à-dire la transcription des délibérations, nous arrivaient à un décalage horaire très marqué. Il fallait savoir prendre des notes plutôt que de les attendre. La seule documentation immédiatement accessible était celle que constituait, quand il était là, un documentaliste à mi-temps, à partir des coupures de journaux, des documents publics essentiels, de communiqués et de des choses qu'on ramassait personnellement sur nos bureaux. Notre plus efficace et unique moyen de communication était le téléphone, dont le grand raffinement technique était le répondeur. Ah, c'est à ça que ça ressemblait. Quand je suis arrivée à Ottawa, un an plus tard, j'étais dans la même situation, à deux différences près. C'était pire. D'abord, comme j'étais seule correspondante parlementaire, M. Ryan ne voulait pas faire la dépense d'un téléscripteur. Je devais donc emprunter le fil de la presse canadienne. Vous savez, les gros téléscripteurs qui faisaient un bruit d'enfer. Je l'empruntais au Soleil, la charité des correspondants du Soleil, qui avait le bureau voisin. Et pour la période de questions, nous devions nous vêtir pour sortir de la tribune de la presse et traverser la rue et se rendre et aller au Parlement. Donc, en plein hiver, vous connaissez Ottawa, en fait, c'était pas toujours très drôle, mais il fallait le faire. C'est à ça que ça ressemblait aussi. Pour le reste, c'était les mêmes conditions qu'à Québec. La révolution des outils en 30 ans a certainement été l'une des plus heureuses que le journalisme politique a connues. Télédiffusion des débats parlementaires, transmission électronique des textes, Internet, courriel, accès aux documents numérisés, instantanéité des communications, des informations, vérification facile et rapide, plein de choses, des dates jusqu'aux citations des discours. On n'en finirait plus d'énumérer les bénéfices des nouvelles technologies pour un métier qui en profite d'ailleurs amplement. L'un des cadeaux les plus précieux que ces outils ont donné aux journalistes est évidemment, le temps, la fin ou presque des déplacements inutiles, l'immédiateté des réponses à la plupart des recherches documentaires qui étaient autrefois complexes, fastidieuses, frustrantes, parce que quand même on avait des heures de tomber, on ne pouvait pas toujours trouver tout ce dont on avait besoin pour donner des éléments de contexte. La disparition des délais de transmission, ce sont des heures et des heures que les médias ont récupérées. Et la vie politique étant une scène changeante au quotidien, cela se traduit certainement par des reportages plus exacts, une information plus suivie, qui a modifié nos habitudes de consommation en retour. Et si nous connaissons à nouveau un âge d'or du journalisme d'enquête, comme c'est évident, il faut sans doute en attribuer une bonne part à l'utilisation intelligente de ces nouveaux outils. Je me pose néanmoins une question, et j'aimerais tantôt entendre vos réactions. À quoi les journalistes politiques utilisent-ils tout ce temps récupéré? J'aimerais penser que c'est à une recherche approfondie, facilitée au surplus par un accès sans précédent aux informations de contexte qui permettent de préparer de meilleurs reportages. Mais j'en doute bien un peu quand je vois nombre de reporters se répandre sur de multiples plateformes, participer, comme je le disais plus haut, régulièrement aux émissions de radio et de télévision d'affaires publiques générées par l'information continue, entretenir leur page Facebook, leur ligne Twitter et rédiger pour le site Internet de leurs médias d'appartenance un ou même des blogs quotidiens, je n'en reviens pas, qu'ils modèrent, pour employer un anglicisme, eux-mêmes. Parce que vous savez, toutes les folies qui s'écrivent là-dessus, il faut bien empêcher les gens de commettre des libelles diffamatoires à toutes les deux pages. Ce qu'on gagne d'un côté, le disperse-t-on de l'autre dans un énervement constant et sans précédent? Et surtout, cette dispersion en vaut-elle la peine? Je ne suis absolument pas convaincue que la frénésie d'interactivité web qui touche actuellement tous les médias soit un acquis pour la qualité du journalisme et notamment du journalisme politique. La majorité des commentaires de lecteurs sont souvent toujours les mêmes. Je regardais la semaine dernière, quand je préparais ces notes, je suis allée en lire quelques-uns quand même de ces blogs. Et souvent, on regarde, par exemple, un texte qui est suivi de 10 commentaires, ce qui est assez régulier, puis ensuite un autre qui est suivi de 10 commentaires. Regardez comme il faut, les pseudonymes sont souvent les mêmes personnes qui écrivent, hein, constamment. Alors, donc, c'est la majorité des commentaires des lecteurs qui fréquentent, ça ressemble à des lignes ouvertes du web, sont du genre à écrire « has been leads », hein? C'est-à-dire à se défouler en conjuguant 1. Le simplisme, 2. L'insulte et 3. L'incivilité. Ce type de lettres aux lecteurs, on les aurait expédiées à la poubelle autrefois, et je peux vous le dire, j'ai longtemps tenu, on a fait tous les métiers au devoir, donc celui de recevoir et d'éditer les lettres de lecteurs, je l'ai fait aussi. Et tout à coup, ça se trouve en bonne place sur le site des meilleurs médias, n'oubliez pas que j'étais dans le monde, pourvu que les propos ne portent pas atteinte directe à la réputation ou bien sûr aux bonnes mœurs. Sur les dizaines de réactions au débat Google, dans Le Figaro comme dans Le Monde, je n'en ai pas trouvé plus de 2 ou 3 qui apportaient une contribution un peu sérieuse aux échanges. Je ne parle pas de contribution spécialisée, simplement de réactions un peu sérieuses. Je ne lis pas habituellement ces jeux de ping-pong insipides entre les accros de ce genre, mais je l'ai fait, je vous disais, pour préparer ma communication. Je suis tombée sur des commentaires, et Antoine Robitaille, qui est dans la salle, me permettra, c'est mon journaliste de prédilection, le correspondant parlementaire, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais le malheureux, il a un blog. Donc, je suis allée... Antoine, je ne le lis jamais, parce que moi, je lis le devoir sur papier, ou alors je le lis quand je suis à l'étranger sur Internet, mais je lis pas ni les blogs ni les commentaires. Alors, Antoine avait fait 2 ou 3 paragraphes, il se reconnaîtra, à propos de la récente sortie du maire de Québec contre les célèbres sorties du maire de Québec contre les médias. Je crois qu'il a eu 100 de commentaires à son 2 paragraphes qu'il avait fait, je ne sais pas, au beau milieu d'une journée. À vrai dire, l'orgie de réactions qui suivait était pour l'essentiel aussi peu édifiante que le propos de l'élu qui l'avait provoqué. C'était du genre, vous autres, qu'est-ce que vous avez, les gens de Montréal, à dire que notre maire est pas bon parce que nous, notre maire, vous, votre maire à Montréal, c'est pas beaucoup mieux, il est un peu drabe. Et puis, bon, c'était, et puis là, on en était à échanger sur l'image respective de M. Labeaume et de M. Tremblay. Écoutez, dans le... Bon, c'est absolument, à mon avis, sans intérêt. On ne me fera pas confondre ce défoulement avec une démocratisation de la prise de parole. Alors, toute révolution ayant ses effets pervers, j'en vois donc nettement quelques-uns, entre autres la dispersion des énergies des meilleurs journalistes, la familiarité accrue, qui a toujours été un problème dans le journalisme politique, mais qui, avec Twitter notamment, atteint probablement des niveaux plus problématiques que jamais, l'expression sans retenue du mépris pour la chose publique, ça je le vois beaucoup dans les quelques blogs que j'ai consultés, que l'on retrouve chez ces interactifs, auditeurs ou lecteurs, et que les médias se trouvent à encourager directement. L'erreur de perspective qui tend à traiter ce public gazouillant, vous savez que la traduction de Twitter, c'est gazouillis, c'est une erreur de perspective qui tend à traiter ce public comme le public, la population, alors qu'il ne s'agit que d'un segment. Pour avoir beaucoup réfléchi à cette question du web interactif, parce que à la Bibliothèque et Archives nationales, nous avons créé le plus grand portail culturel du Québec, il me semble qu'il y a là un défaut de perception qui est dû à l'enthousiasme des débuts. On se conduit souvent comme si l'interlocuteur au bout de ses fils électroniques était le nouveau citoyen, l'engagé, celui qui fait l'opinion. Et tant les élus d'ailleurs que les médias analysent les frissons collectifs qui parcourent le web comme ils le feraient d'un sondage, sans jamais prendre ou exiger les mêmes précautions méthodologiques. La semaine dernière, un chroniqueur, dans un autre média que Le Devoir, analysait les réactions au budget qu'il avait reçu par courriel. Il disait qu'il y en avait eu une centaine. Et il accréditait tout cela de long en large et ne formulait de réserve qu'à la toute fin. Et c'était vraiment quelqu'un de bien, un bon chroniqueur. Il disait, certes, ceci n'a pas valeur de sondage, mais néanmoins révélateur. Je me souvenais du moment où on a commencé à publier des sondages politiques et où le sociologue Paul Bernard et ses équipes à l'Université de Montréal nous admonestaient, analysaient nos sondages, nous disaient, oui, mais la marge d'erreur, mais votre échantillon, mais la façon dont vous avez posé votre question, mais ceci, mais cela. Et là, ils nous donnaient un A, un B, un C, un D ou un échec. Et là, aujourd'hui, les gens jasent sur Twitter ou par courriel, et puis on dit, ça n'est pas un sondage, mais c'est néanmoins révélateur. Je pense que là, il y a vraiment dérive. Or, qui sont ces personnes qui semblent avoir d'autres occupations à longueur de journée que de chatter, réagir, participer à toutes les discussions, que ce soit celle du Club des ex ou la cyberchronique d'un correspondant, en passant par les émissions de variété ou les concours? Je vous dis, prenez un compas et tournez-le autour de votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues, et dites-moi si seulement la moitié d'entre eux font partie de cette communauté de placoteux qui semblent avoir tout leur temps, et qui ressemble beaucoup plus à mes yeux à ceux qui partageaient les lignes téléphoniques. Vous vous souvenez dans les rangs quand tout le monde pouvait écouter tout le monde au téléphone, au moment de l'invention du téléphone. Je crois qu'il faudra en revenir un jour et s'en tenir à une conception plus inclusive de la citoyenneté. En donnant à ces opinions très segmentées valeur d'opinion publique, on contribue directement à la distorsion de cette opinion publique. L'effet me paraît très pervers. Et je suppose que des scientifiques de la communication vont ou sont déjà en train de l'étudier. Je vais parler brièvement aussi de l'évolution du terrain. Parmi les terrains politiques où on travaille comme journaliste, parmi les différences entre mon hier et votre aujourd'hui, il faut évidemment noter aussi l'évolution, puisque nous sommes ici, de la Tribune de la presse. En consultant le dernier rapport annuel de son président, alors sortant, M. Duchesne, il y a de quoi sursauter devant les statistiques. Les membres de la Tribune sont passés d'une centaine à une soixantaine au cours des dernières années, dont seulement 30 journalistes. Ça n'est pas beaucoup pour surveiller les élus du peuple. Bon. Le déclin semble dû notamment au départ des radios privées et aussi de la presse anglophone qui a été très présente durant les décennies les plus actives des débats constitutionnels, mais qui actuellement s'en éloigne. Le président de la Tribune exprime sa crainte de voir la convergence, c'est le président sortant, là, je souligne, de voir la convergence d'une part et d'autre part les régimes d'austérité que connaissent les médias amener des fusions qui diminueraient encore ce nombre. Les correspondants de la presse et du Soleil, par exemple, deviendront-ils les mêmes? En ira-t-il de même pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal? La Société Radio-Canada va-t-elle amalgamer ses journalistes de la radio et de la télévision? Où va la presse canadienne avec l'apparition d'une agence chez Québecor? Toutes ces questions sont posées dans son rapport. Et si toutes ces craintes devenaient réalité, la tribune se dépeuplerait encore plus et on peut certes s'en inquiéter vivement. Car même s'il est vrai que les nouveaux médias facilitent le reportage et l'analyse à distance, on connaît aujourd'hui tous des chroniqueurs qui travaillent même de chez eux, parce que ça leur permet l'accès en temps réel aux débats de l'Assemblée et aux documents, le travail sur place demeure indispensable. La richesse de renseignements inattendus et disponibles, par exemple lors des commissions parlementaires, n'est pas d'accès immédiat. Pendant les quelques années où j'ai été présidente d'une société d'État, en fait, j'ai assisté et participé à plusieurs commissions parlementaires et chaque fois, mon métier de journaliste remontait parce que je me disais « Ah, comme c'est intéressant, ça, ça pourrait faire un bon papier, ça, c'est bon ». Et finalement, je crois qu'il se passe plein de choses dans les commissions parlementaires. Et évidemment, à 30 journalistes à la tribune, les gens ne peuvent pas tout couvrir. Et beaucoup, beaucoup de choses intéressantes, qui, je m'empresse de le souligner, ne sont pas toutes des scandales, là, mais des choses intéressantes sur le plan politique s'y passent, qui restent entre les murs. Les conférences de presse et surtout les rencontres impromptues avec les élus sont irremplaçables pour questionner, vérifier, recueillir des réactions. Au rythme où vont les choses, on risque de voir les médias débarquer sur la colline en nombre suffisant uniquement lorsqu'il y aura de grands rituels à date fixe, le discours inaugural, le discours du budget, et laisser le reste filer au petit bonheur la chance. Alors, s'il est une méthode traditionnelle de reportage qui devrait à tout prix être conservée, c'est bien celle d'une tribune dynamique et collée au terrain, et il me semble que le sujet n'inquiète guère hors les cercles qui vivent ce problème. Sans que ce soit une consolation ou une compensation, il faut aussi constater que le journalisme politique a migré en partie vers d'autres lieux. Les lois d'accès à l'information, qui sont encore sous-utilisées à mon avis, et la création d'équipes d'enquête donne des résultats probants à cet égard. Les politiques publiques ne sont pas seulement celles qui se discutent à l'Assemblée nationale, elles se forgent de plus en plus dans les organismes ou encore, comme je l'ai vu, dans les sociétés d'État, dont l'autonomie ou la discrétion exigerait qu'on les scrute de plus près, et c'est ce qui semble en voie de se produire. Nous sommes toutefois encore bien loin du compte et enlisés dans des questions routinières et sans imagination. J'ai été 11 ans à la tête d'une société d'État et je pouvais vous dire ce qui arrivait tous les 3 mois. Qu'en était-il de mon salaire, de mes dépenses, des primes au cadre et durant la construction, évidemment, avions-nous respecté le budget et avions-nous respecté l'échéance? Je vois une de mes anciennes ministres ici qui se souvient fort bien de ces rituels qui fonctionnent dans les sentiers battus, alors qu'il se passait tellement de choses intéressantes à l'époque dans cette institution nouvelle qu'on créait. Donc, c'était relativement facile, je dois vous dire, de traiter avec les médias. Ce qui échappe à ces médias, je le disais, n'est pas toujours scandaleux, loin s'en faut, mais les réorientations politiques, et là je parle d'une petite société d'État qui a été la mienne, parce que c'est la plus grande en taille, en diversité au ministère de la Culture, mais c'est une petite au regard des autres, et souvent les réorientations politiques, ce sont souvent dans ces forums qu'elles se dessinent. Enfin, une dernière observation sur le sens critique, j'y tenais beaucoup. À première vue, le sens critique ne semble pas avoir déserté les médias. L'abondance des chroniques que j'ai longuement évoquées a pour effet de multiplier les lieux de commentaires. On y trouve bien sûr le pire, le moyen, le meilleur, et plus souvent, faut-il dire, de vigilance que de complaisance dans le propos. Maintenant, je m'empresse aussi de dire que ça n'est pas une étude exhaustive. Hein. C'est vraiment l'observatrice quotidienne qui lit beaucoup de ces choses et qui les écoute aussi, qui parle. Je ne peux m'empêcher de proposer quelques observations sur les outils ou encore la grille critique en usage dans le journalisme politique. Le fonds de commerce des chroniqueurs politiques, et je le dis avec d'autant plus d'aisance que j'ai fait la même chose à l'époque, ce sont souvent des reporters chevronnés, est trop souvent ce fonds de commerce leur mémoire. Ils ont vu passer de l'eau sous les ponts. Et ils ont tendance à décréter que le courant ira toujours dans le même sens. Ils ont vu la querelle au leadership qui a eu lieu il y a 25 ans entre M. Turner, M. Chrétien, changeant de parlement pour l'instant. Et puis, là, ils disent, oui, mais si un tel agit de telle façon, ça rappelle la façon dont l'autre s'était. Bon, ils ont les dates en tête, ils ont les événements en tête, et c'est comme un retour constant vers le passé, et on se dit, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Comme on sait, chez en sciences humaines, ce n'est pas toujours le cas. Alors, ils ont tendance à décréter que ça ira toujours de la même façon. Ils se reportent à des situations antérieures et la technique comparative entre présent et passé, peut avoir son utilité, surtout pour une société qui a la mémoire courte, mais elle me paraît souvent insuffisante. Et autre problème du sens critique, c'est celui de la pensée commune. À l'époque, on appelait ça toujours une expression anglaise, la « pack mentality ». C'est une chose que j'ai apprise à Ottawa. On disait, tiens, la « pack mentality » est à l'œuvre. Ça a toujours été le mignon défaut du journalisme politique, du journalisme en général, disons, et du journalisme politique aussi. Et ce trait n'a guère changé, me semble-t-il. Il est toujours à l'œuvre, malgré la multiplicité des commentateurs. Il a fallu l'énorme récession de 2009, directement causée, comme je le disais, par les abus odieux et même vicieux des milieux financiers, pour que certains pontes soient enfin égratignés par les questions des médias dans le secteur public comme dans le secteur privé. Certains sujets demeurent intouchables, et je ne parle pas de ce qu'on a appelé depuis deux semaines les vaches sacrées habituelles. Pour donner encore un exemple qui vient d'ailleurs, en fait, mais qui à mon avis, est parlant, en me consultant des blogs la semaine dernière, je suis tombée sur un blog Internet du Canada anglais. J'ai trouvé un texte qui soupçonnait le gouvernement du Canada de vouloir renforcer la LENA derrière des portes closes en préparant la voie d'une union politique avec les États-Unis et le Mexique sur le modèle européen. Tiens, tiens, intéressant. Inutile de dire cependant que le commentateur déchirait ses vêtements virtuels, l'enfer et la catastrophe étaient aux portes. Cela me rappelait 1980-81. Alors que je séjournais à New York et que j'avais préparé, à la demande de la télévision de Radio-Canada, un documentaire sur les relations Canada-États-Unis, où nous posions ici et là la question de la libéralisation des échanges. Des deux côtés de la frontière, chez les médias, les universitaires, les élus, les ministres, c'était l'unanimité contre cette idée même qui était ce qu'on appelle un impensable. Pourtant, en moins d'une décennie, nous y étions. Il me semble donc y avoir un déséquilibre dans l'analyse politique entre le recours au passé comme grille d'analyse et la volonté ou la capacité de voir venir. C'est en fait toute la classe politique, médias et élus, qui est le plus souvent plus à l'aise dans des sentiers battus que dans les nouvelles donnes. C'est normal, me direz-vous. Mais quand même, et il vaut la peine de le souligner, débattre du ticket modérateur en santé, quel que soit le nom qu'on lui donne d'ailleurs, malgré les passions que ce projet déchaîne actuellement, c'est infiniment plus aisé que de débattre des nouvelles questions identitaires. Le journalisme politique aborde là, on commence à le voir, un écueil considérable où ses techniques, ses réflexes, son vocabulaire, son métier, ce regard vers le passé sont insuffisants à assurer sa sécurité. Le journalisme pratique une sorte de, j'ai une expression que j'avais employée dans la préface à mon premier recueil de chroniques et d'éditoriaux que j'avais publié en 87. J'appelais ça, après m'être relu, je me disais, j'ai pratiqué la pensée à la pige. Donc, je pense qu'on est encore là-dedans, pensée à la pige, on attrape au vol des idées des uns et des autres, mais on est encore très, très mal assuré dans ce domaine. Alors que l'irruption de ces nouvelles sont-elles si nouvelles? Oui, elles sont nouvelles, en tout cas pour nous, questions morales, religieuses, ethniques, dans le politique. Cette irruption volcanique est irréversible et n'est pas à la veille de disparaître. Qu'on repousse ou non ce calice pour l'instant, il faudra bien que viennent un jour des propositions et des balises, qu'elles soient présentées par les élus, puis scrutées par les médias, décortiquées et commentées. Le débat sur le ICAB paraîtra alors un jeu d'enfant. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'il a été plutôt consensuel. Ce qui nous attend est tout à fait autre chose. Mais ce serait le sujet d'un autre colloque. Je vous remercie beaucoup.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelques personnes qui voudraient poser des questions à Mme Bissonnette? Monsieur?
Bonjour. Mon nom est Normand Delisle. Je suis un ancien membre de la Tribune de la presse à la période où Mme Bissonnette, entre autres, était également membre de la Tribune. Vous avez abordé très, très brièvement la question de la concentration de la presse. Je sais que le Québec est actuellement un des endroits au monde où la presse est la plus concentrée. On a deux géants qui possèdent 97 % de l'ensemble des médias écrits, du tirage des médias écrits, et un de ces géants-là possède également le principal réseau de télévision privé qui existe. Vous avez mentionné que ça avait un effet sur le journalisme politique. J'aimerais ça savoir si vous avez des solutions à proposer pour réduire ou au moins contrôler cette concentration de la presse-là. Est-ce que vous pensez, entre autres, que ça serait important qu'il y ait une loi au Québec qui intervienne dans ce secteur?
Les lois et je pense qu'il vaudrait la peine effectivement de regarder de plus près ce qui pourrait être fait. Il est certain que chaque fois qu'on discute d'une loi pour limiter la concentration de la presse et préserver une diversité qui existe quand même toujours, même si elle s'est réduite au cours des années. Chaque fois, évidemment, là, on a l'impression de toucher une vache sacrée et d'empêcher le capital de se développer comme il le veut. Mais je trouve que, pour répondre brièvement, personnellement, je crois que ça vaudrait la peine, effectivement, de mettre des limites. On en a mis dans d'autres domaines. On a fait des lois qui limitaient la propriété de tel type d'entreprise, par exemple, dans l'édition ou des choses comme celle-là. C'est sûr que dans le journalisme, on est toujours un petit peu plus sensible. Mais si on n'examine pas, en tout cas, ces voies-là, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Et il y a encore des choses à préserver au Québec, même si, comme vous le dites, Normand, les choses ont la concentration a déjà avancé beaucoup. Il reste que une certaine diversité existe. Montréal est une des seules villes en Amérique du Nord qui a encore 4 journaux quotidiens, par exemple. Et on voit avec même, bon, la Société Radio-Canada ayant 2 chaînes, etc., mais même à l'intérieur de ces sociétés-là, ça risque aussi de se rétrécir. Mais il est certain que la convergence elle-même, oui, je suis très inquiète de ce qui est en train de se passer là. La confusion entre les nouvelles et les variétés, entre autres, sujet que je n'ai pas touché aujourd'hui parce que je pensais que vous étiez tous très conscients de cette difficulté qui est en train de se produire sous l'effet de la convergence particulièrement. Je dois dire avec la complaisance de bien des journalistes aussi qui participent à ces choses-là, mais il reste que c'est sous l'effet de la convergence qu'on voit arriver l'espèce de confusion entre l'information et ça, le show business, là. Il serait temps de l'examiner sérieusement et j'aurais absolument aucune retenue à examiner des solutions législatives sans les connaître précisément, bien sûr, mais au moins à ouvrir la porte à cette chose-là. Personnellement, je suis même un peu doctrinaire à cet égard-là, donc ça ne va pas vous surprendre. Je suis profondément scandalisée par ça, que ça vienne des journalistes ou que ça vienne des élus. Je trouve que j'ai parlé un peu de la familiarité. Là, on voit très bien que c'est un des écueils actuellement avec les nouveaux médias, c'est évidemment la familiarité. Mais si on y va par soi-même, ben, on va mettre sa tête sur le bio, ben, après qu'on ne vienne pas se plaindre que les gens sont trop familiers. Je pense qu'un peu de classe et de distance n'a jamais fait de mal à personne. Toute cette année, au cours des derniers mois, on a beaucoup réfléchi, j'en profite pour parler du devoir. Et vous avez vu l'espèce de ralliement qu'il y a eu absolument extraordinaire autour de ce journal au mois de décembre, de janvier. Qu'est-ce qui s'est écrit un peu partout? Journalisme de qualité, l'indépendance et tout ça. Mais c'est un journal qui, j'en sais quelque chose, on a tellement travaillé à sa refonte au courant des années 90, au moment où il était en train de couler à pic, et on a délibérément choisi de faire ce qu'on nous a accusé de faire d'un journal d'élite qui tenait à la qualité de l'expression, à la réflexion, à l'analyse, et qui ne tombe pas dans ce tout à tous, dans ce mélange de journalisme lifestyle là, qui était en voie de prendre racine particulièrement durant les années 90. Aujourd'hui, on dit « Ah, que c'est bien, bon, mais alors justement, il y a une raison à ça, c'est qu'on a su garder une certaine distance, une certaine classe, à mon avis, ce journal a encore, et puis j'aime le mot « classe » là, dans toute sa splendeur et sa noblesse, dans le fond, il n'a pas eu besoin d'aller dans des, faire de l'amusement public pour être respecté et compter encore dans la société. Je pense qu'on fait fausse route quand on fait ça. Mais là, c'est vraiment des deux côtés. Je déplore vraiment ce qui est en train de se passer. Toutes ces tribunes, qu'elles soient des caricaturales, où je nommerai pas d'émission, mais il y en a plusieurs, en fait. Hein. On pense tous à la même, mais dans le fond, elle a fait des petits... Il y a une demi-douzaine d'émissions, là où ces frontières sont en train de sauter. Et personnellement, je serais assez doctrinaire là-dessus. Je trouve que c'est une erreur, et une erreur de la part des élus de se prêter à ces choses-là. Ils ne gagnent rien. Ils ne gagnent rien en se prêtant à aller servir, dans le fond, de matière à des gens qui les utilisent, dans le fond, les instrumentalisent, et pour leurs émissions, les fins de l'émission. C'est pas pour la démocratie qu'on fait ça, là. Et je crois pas que ça change de quelque façon l'image qu'ils veulent se donner. Je crois pas que les gens, en général, apprécient tant de voir leurs élus de se placer dans cette situation-là. Et je devrais dire qu'il n'y a pas seulement les élus, il y a des journalistes aussi et qui traversent allègrement cette frontière. Tantôt, j'ai dit on peut la traverser pour écrire des romans, on peut, bon, être un peu plus subjectif, mais là, je crois que c'est un cran plus loin et que c'est extrêmement dangereux pour l'avenir de l'analyse et des rapports entre médias et politiques.
Madame Bissonnette, malheureusement, on doit vous arrêter. On vous aurait écouté encore pendant de nombreuses minutes. Merci. J'aimerais ajouter aussi que votre conférence a été très intéressante, éclairante et passionnante. Alors, nous devons maintenant procéder à un changement de décor. Alors, ça, c'est pour la tenue de la table ronde. Nous nous retrouverons dans quelques minutes. Merci. À tantôt.